nécessairement à recevoir une autorisation officielle qui lui permettrait de prendre le large. Après, en fera-t-il l'usage, en aurait-il fait l'usage ou serait-il allé directement en Angleterre, on ne sait pas, mais il est persuadé qu'une fois à bord de la Salle et de la Méduse, il pourra retrouver sa liberté d'action et partir faire voile vers où bon lui semblera. Donc là, il se trompe lourdement puisque, une fois encore, Fouché n'a pas vraiment envie de se compromettre pour Napoléon et les Alliés n'ont aucune envie de laisser Napoléon libre de ses faits et gestes.
Napoléon arrive un peu tard à Rochefort, en fait, quand il arrive, c'est le calme plat en mer, et donc en fait les bateaux ne peuvent pas bouger, ils sont immobilisés, et donc il y a une certaine période d'attente, mais qui tourne à son désavantage, parce que plus ça va, d'abord les Anglais ne savent pas qu'il est à Rochefort, mais au fil du temps, ça va commencer à se savoir. En fait, Napoléon, on lui propose beaucoup de solutions, hein, l'une d'entre elles étant de le faire passer sur un navire marchand, à fond de cale, dissimulé dans un tonneau aménagé, où on peut respirer, presque manger, et d'autres tonneau pour sa suite, hein, ce qu'on a ignoré. Mais Napoléon ne veut pas de ces solutions aventureuses parce que d'abord, il le dit, j'ai peur de me noyer. Et puis bon, si Napoléon était découvert dans un tonneau, je pense qu'on ne serait pas là pour parler.
Napoléon a quand même la conscience de qui il est, de ce qu'il représente. Donc effectivement, se faire arrêter en étant caché dans un tonneau, évidemment, c'est en effet assez ridicule. La solution la moins risquée aurait probablement été ce que Joseph Bonaparte lui a proposé, c'est-à-dire Joseph avait réussi à louer un bateau de commerce et a proposé de le mettre à la disposition de son frère en prenant sa place. C'était tout à fait crédible parce que Joseph et Napoléon se ressemblaient beaucoup physiquement, on les confondait même parfois, et donc de loin, la silhouette de Joseph aurait pu faire penser à Napoléon. Mais c'était tout aussi ridicule, c'est-à-dire qu'il y avait aussi là une espèce de petite farce que l'on jouait aux Anglais, et Napoléon n'a pas voulu la jouer, d'autant plus qu'il aurait dû partir quasiment seul et qu'il voulait conserver quand même son statut d'empereur au moment de son exil.
Alors, il y a la solution militaire des deux frégates qui lui sont réservées, qui ont été données par finalement Fouché, la Salle et la Méduse. Ce sont deux frégates construites en 1812, très récentes, en fait très rapides, beaucoup plus rapides que la flotte anglaise qui est vieille en fait. Hein. On l'oublie souvent, mais la flotte anglaise est constituée de vieux navires, souvent de navires capturés aux Français. Et le Bellerophon, qui est commandé par le capitaine Maitland, hein, qui garde la baie de Rochefort, en fait est un navire lent. Hein. Et militairement, très certainement, si une frégate va au-devant du Bellerophon et se sacrifie, en fait, hein, lui tire dessus, l'autre est tellement rapide qu'elle passera sans encombre.
Le problème, c'est que les croisières anglaises bloquent les côtes et que pour rejoindre les États-Unis ou au moins rejoindre la haute mer, il faudrait combattre. Or, Napoléon, je crois, à ce moment-là, a compris que sa sortie de l'histoire ne pouvait pas se faire au prix à nouveau de verser du sang et d'une dernière bataille ou d'une avant-dernière bataille. Parce que bon, tout ce qu'on sait de l'opération qui aurait été possible, c'est que sur les deux frégates, il aurait fallu en sacrifier une et pour que la deuxième puisse prendre la mer. Or, Napoléon a compris. Je crois qu'il a compris qu'il lui fallait, après avoir eu une telle carrière, il lui fallait une belle sortie. Napoléon est bien sûr un militaire, il n'a pas peur de la guerre, il n'a pas peur du combat, il n'a pas peur de prendre des risques, mais il est dans un moment de sa vie où il a aussi compris qu'il n'y aura pas de deuxième retour de l'île d'Elbe, hein, il n'y aura pas de retour de Rochefort. Donc sa solution, s'il veut partir aux États-Unis, il faut combattre, il faut sacrifier une des deux frégates et ça va faire encore couler du sang et de l'encre. Et je crois que Napoléon a choisi dès ce moment-là que si de l'encre devait couler, ce ne serait pas pour parler d'une dernière tentative qui a coûté des vies, qui a coûté un vaisseau et qui au fond était assez aléatoire elle aussi.
Napoléon fait alors quelque chose de totalement imprévisible. Il décide de se rendre aux Anglais. Peut-être, une fois encore, pense-t-il à la postérité. Peut-être pense-t-il qu'il faut toujours surprendre. Il écrit au prince régent.
En but aux factions qui divisent mon pays et à l'inimitié des puissances de l'Europe, j'ai terminé ma carrière politique. Et je viens comme Thémistocle m'asseoir au foyer du peuple britannique. Je me mets sous la protection de ses lois, que je réclame de votre Altesse royale, comme du plus puissant, du plus constant et du plus généreux de mes ennemis. »
Pour expliquer la reddition de Napoléon, il y a deux éléments. D'abord, l'élément des temps. Nous sommes dans d'autres temps, c'est-à-dire que nous avons pris l'habitude au XXe siècle de voir le vaincu être enfermé, et très souvent exécuté. Hein. Bon, à cette époque, ça ne se passe pas comme ça. Napoléon est le gendre de l'empereur d'Autriche, son fils est le petit-fils de l'empereur d'Autriche, c'est un souverain qui a été reconnu par l'Europe entière, donc il n'est pas question pour lui de subir de mauvais traitements s'il venait à se rendre, ce en quoi d'ailleurs il se trompe. Deuxième chose, Napoléon est un homme de l'Antiquité, il se vit comme un antique, or qu'y a-t-il de plus beau dans l'histoire antique que le vaincu venant se livrer à son vainqueur, et le vainqueur étant, comment dire, généreux avec lui. C'est pourquoi il utilise l'image de Thémistocle dans la lettre qu'il envoie au régent d'Angleterre, puisque Thémistocle s'étant rendu à ses vainqueurs, a été ensuite employé par ceux-ci, y compris pour gouverner des provinces. Donc il y a cette idée, je suis aussi un personnage antique, qui le pousse à croire aux promesses des Anglais.
Napoléon est imprévisible, donc il ose quelque chose d'autre. Il va écrire aux Anglais, enfin au prince régent, qui est alors le souverain, si je puis dire, remplaçant, puisque son père, Georges III, est atteint de démence, le futur Georges IV. Donc Napoléon écrit au prince régent « Je viens, comme Thémistocle, m'asseoir au sein du foyer du peuple britannique ». Bon, c'est à cette époque-là, l'Antiquité était une référence absolue, mais tout le monde savait de quoi on parlait. Et Thémistocle, c'est un général grec qui s'est rendu aux Perses. Bon, jusque-là, l'analogie avec Napoléon est égale, donc avec honneur, et est accueilli par les Perses. Mais ce qu'on ignore ensuite, c'est que Thémistocle a servi les Perses, et qu'il a même administré des provinces de leur empire. Donc Napoléon ne choisit pas Thémistocle par hasard, parce que sinon il aurait pu prendre d'autres redditions honorables dans l'histoire, mais Thémistocle, en fait, il est en train de leur dire, il essaie d'accroître son avantage, je me rends comme Thémistocle, c'est-à-dire je serai vraiment pacifique, et même au cas d'ailleurs, si jamais vous avez besoin de moi, pourquoi pas. Napoléon était capable de ça, dans le fond. Peut-être que si les Anglais lui avaient proposé de devenir vice-roi des Indes, dont il rêvait depuis l'Égypte, hein, peut-être, pourquoi pas. On n'en sait rien avec lui. Hein. Vous savez, Napoléon a tellement rebattu les cartes que finalement tout était possible. Mais le problème, c'est que ceux qui ne se rendent pas compte, c'est qu'en adressant un message pareil, alors même qu'il est craint et qu'on le juge justement imprévisible, il montre encore qu'il est encore plus imprévisible qu'on le pensait. C'est-à-dire qu'il est capable vraiment de vous surprendre. Donc en fait, les Anglais qui le redoutaient déjà beaucoup, le craignent encore plus, et plus il avance, si je puis dire, plus eux reculent et commencent à effectivement s'affoler de plus en plus, car les Anglais sont terrorisés par Napoléon, par ce personnage, hein, qui à lui tout seul a été capable de reprendre son trône et d'affronter toute l'Europe. Donc en fait, ils savent à qui ils ont affaire, et en fait ça c'est le premier sentiment des Anglais face à Napoléon, c'est la crainte, hein, avant tout. Hein.
Quand, dans la suite de Napoléon, on apprend qu'il décide de se rendre aux Anglais, les réactions ne sont pas tout enthousiastes. Loin de là.
Tous vont avoir des réactions très différentes. Certains vont très vite s'éclipser en comprenant que les choses tournent mal. Napoléon ne pourra emmener qu'une quinzaine de personnes à Sainte-Hélène. Et tous n'ont pas les mêmes raisons d'y aller et tous n'y vont pas de gaieté de cœur. On a par exemple le grand maréchal du palais Bertrand. Donc lui, il y va par sens du devoir, parce qu'il est un grand officier de la couronne, il doit suivre son souverain dans la fortune comme dans le malheur, c'est son devoir. On voit que son épouse, par exemple, qui l'accompagne, tente de se suicider en se jetant à l'eau parce qu'elle n'a aucune envie d'aller à Sainte-Hélène, qu'elle est persuadée que sa famille n'en reviendra jamais, que ses enfants vont y mourir. Donc, même au sein du couple, il y a une sorte de divergence. On voit que Montholon, par exemple, lui, il va plutôt par fidélité, par enthousiasme, peut-être aussi avec l'idée ou le rêve d'être le préféré de l'empereur, d'être une sorte de courtisan comblé. D'ailleurs, c'est lui qui sera le plus favorisé dans le testament de Napoléon. Peut-être aussi avec l'idée, lui aussi, de faire un coup éditorial, puisque tout le monde dans l'entourage de Napoléon va tenir un journal, et tout le monde ensuite le publiera, et Napoléon lui-même se plaindra que vous voudrez tous vous faire de l'argent sur mon dos. Donc, Montholon par lui aussi relativement par fidélité. Et enfin, on a le général Gourgaud. Lui, c'est vraiment, on va dire, une sorte de tête brûlée. Il est admirateur de l'empereur, il est en extase devant l'empereur, il est presque amoureux de l'empereur, à ce qu'on dit. Pour lui, c'est une évidence. Il faut partir le suivre à tout prix à Sainte-Hélène. Donc c'est vraiment le caractère le plus enthousiaste de l'exil et aussi le plus instable, d'ailleurs. Enfin, vous avez les domestiques qui, eux, viennent uniquement par fidélité, parce que c'est le devoir d'un serviteur que de suivre son maître. Donc, que ce soit le valet de chambre marchand, par exemple, le valet Ali, enfin Louis-Étienne Saint-Denis dit Ali, le confiseur Piron, les frères Archambault qui travaillent aux écuries, ils suivent leur maître, tout simplement. Ils l'ont suivi aux Tuileries, ils l'ont suivi dans ses voyages, ils l'ont suivi dans ses campagnes. Pour eux, c'est une aventure de plus. Ils sont peut-être un peu inquiets, ils sont peut-être anxieux à l'idée de partir loin de leur famille, mais ils ont toujours cette idée que l'empereur, quoi qu'il en soit, les protégera toujours.
Napoléon monte finalement à bord du navire anglais le Bel Air au fond, avec ses derniers fidèles. Albine, la femme du général Montholon, écrit.
Rien ne peut rendre la stupeur, le profond découragement qui se lisait sur les visages. L'empereur se livrait aux Anglais. Aux Anglais, ses ennemis, toujours ennemis avoués ou cachés de la France. Prochain épisode, le piège. Une fois monté à bord du Bel Air au fond, rien ne se passe comme Napoléon l'avait prévu. Il devient prisonnier de guerre et est déporté sur l'île de Sainte-Hélène, à des milliers de kilomètres des côtes, en plein océan Atlantique.
L'idée seule me fait horreur. Être relégué pour la vie dans une île entre les tropiques, à une distance immense de tout continent, privé de toute communication avec le monde et de tout ce qu'il renferme de chair à mon cœur, c'est pis que la cage de fer de Tamerlan. Je préférerais qu'on me livrât aux Bourbons. Entre autres insultes, ils m'appellent général. Ils n'ont pas le droit de m'appeler général. S'ils ne me reconnaissent pas comme empereur, ils doivent me reconnaître comme premier consul. Autant aurait valu signer tout de suite mon arrêt de mort, car il est impossible qu'un homme de mon tempérament et de mes habitudes puisse vivre longtemps dans un pareil climat.
Merci à Emmanuel de Waresquiel, Pierre Branda, Charles-Éloi Vial et Thierry Lenz. Avec Jean Furst dans le rôle de Napoléon et Alain Éloi pour tous les autres personnages. Tous les épisodes de la série « Le crépuscule de l'aigle » consacrés aux dernières années de Napoléon sont disponibles sur la page podcast du site lapremière.be ou sur Ovio.